politique.
Bonjour, au fond, qu'est-ce que le féminisme? Comment est-il né? Quand? À partir de quelles idées? Ce sont des questions que nous allons nous poser aujourd'hui dans ce nouveau numéro du magazine Idées. Vous savez, celui qui interroge ceux qui pensent le monde. Et pour y répondre, s'il est possible d'y répondre, nous avons invité Séverine Auffray, qui est agrégée de philosophie, spécialiste du féminisme, qu'elle a enseigné dans un séminaire à l'Université populaire de Caen. Elle est l'éditrice de Gabrielle Suchon, une philosophe du XVIIe siècle, et l'auteur d'une monumentale histoire du féminisme de l'Antiquité grecque à nos jours, qui va être au cœur de notre conversation. Ce livre est publié aux éditions de l'Observatoire. Voici donc un nouveau numéro d'Idées, une émission que vous pouvez retrouver aussi sur l'application RFI Pure Radio et sur le site de la radio www.rfi.fr. Bonjour Séverine Auffray.
Bonjour Pierre-Edouard Delbic.
Merci d'être à ce micro, je suis ravi de vous accueillir car vous êtes vraiment une spécialiste de cette question du féminisme que vous voyez, que vous étudiez en tant que philosophe. Et dans cette histoire du féminisme de l'Antiquité grecque à nos jours, Michel Onfray, qui a signé sa préface, écrit qu'il s'agit d'une monumentale œuvre qui manquait. Dites-moi, de la part de Michel Onfray.
Ah ben, j'en suis très très heureuse, très heureuse.
Alors vous écrivez, le féminisme, cette chose neuve, surgit d'un abîme immémorial et presque universel. Comment a-t-il pu naître, se penser, s'instituer, se légaliser, s'exprimer, se batailler? Il nous faut philosophiquement nous en étonner, parce que ça n'allait pas de soi.
Non, ça n'allait pas de soi du tout, dans des sociétés qui, depuis 1000 ans avant notre ère, sont machistes, phallocrates, patriarcales. Et donc, il est vrai que ce qu'on appelle maintenant le féminisme historique commence à la fin du XVIIIe siècle, avec Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, etc. Mais que ce féminisme a été précédé de ce qu'on peut appeler des idées féministes qui sont explicites ou implicites d'ailleurs. Et si vous voulez, je vous en donne ma définition. Il a bien fallu que je cherche une définition. Qu'est-ce que c'est que le féminisme? Bien, pour moi, c'est considérer les femmes comme des êtres humains à part entière, disposant librement de leur corps et de leur esprit, et participant de plein droit à tous les aspects de la culture humaine. Et puis mettre en œuvre et en acte de telles idées. Il suffit pas d'avoir de jolies idées, mais commencer à les mettre en œuvre. Et cela, nous apercevons que même dans une antiquité très lointaine, cela a existé. Par exemple, avec une Sappho, on peut dire que ce n'est pas une théoricienne du féminisme, bien sûr, mais qu'elle déploie une idée qui est implicitement féministe.
Alors on va bien sûr revenir à Euripide, vous démarrez votre livre avec Euripide et Sappho, justement, cette première voix féminine, en quelque sorte. Mais je voudrais m'attarder quelques instants sur votre travail, Séverine Auffray, parce que ça fait des décennies que vous étudiez cette question
du féminisme. Ah oui, tout à fait. Et je peux dire que ce qui a préparé mon travail, c'est d'avoir rééditer les fragments de Mélanie Plat philosophe, qui est donc une œuvre fort méconnue d'Euripide. Là, vraiment, on voit des idées féministes, mais ce sont des fragments. Il a fallu travailler de manière archéologique, ce que j'appelle archéologique. Donc, j'ai fait cette édition, Mélanie Plat philosophe. J'ai bien sûr travaillé sur des questions qui concernent le féminisme, à savoir l'excision, avec des couteaux contre des femmes, aux éditions des femmes. Et puis, à nouveau le théâtre tragique avec un livre qui s'appelle Clytemnestre, et puis j'ai fait ensuite cette édition de Gabrielle Suchon,
dont on va parler.
Et donc ça, c'est vrai que c'est un travail, on peut dire mon premier livre date de 1983 si je ne m'abuse, donc vous voyez, ça fait un certain nombre d'années.
Ça fait quelques années. Alors il faut faire un premier distinguo, Séverine Auffray, que vous faites d'ailleurs dans le livre dès le départ. Faire une différence entre les idées féministes et ce que l'on appelle le féminisme.
Oui, tout à fait. Alors, les idées féministes sont celles que je viens d'expliquer.
Oui, avec votre définition.
Voilà, avec ma définition. Le féminisme suppose le passage au collectif, suppose le passage à l'action, bien sûr, mais surtout au collectif. Jusque-là, toutes ces idées féministes se situent dans la sphère privée, individuelle. Alors que à partir du début du 19e siècle, le féminisme vient dans la rue, dès la Révolution française, d'ailleurs avec justement les bataillons d'Amazon, de Thérouanne, de Méricourt, puis ensuite une action économique avec les fourriéristes, enfin toutes sortes de penseurs justement qui s'attaquent à la réalité économique de l'époque. Ensuite, une dimension politique qui revient d'ailleurs, alors qu'elle avait commencé, on peut dire, au moment de la Révolution française, mais elle s'est éteinte très vite, elle a été carrément censurée, exterminée. Mais elle renaît, on peut dire, à partir du milieu du 19e siècle, avec des luttes pour le suffrage, pour les droits politiques des femmes, et qui se sont poursuivies jusqu'à la guerre de 1914, qui les a éteints à nouveau et enterrés, je dirais, pour un bon moment.
Avec une renaissance après-guerre.
Voilà.
Après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui. Mais très très lente renaissance.
Avec Simone de Beauvoir et qui a surtout fait son chemin à partir de des années 68.
Simone de Beauvoir, c'est quand même après la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
C'est entre-temps, il y a eu bien sûr de très grandes penseuses féministes telles que
Virginia Woolf
avant Simone de Beauvoir, puisqu'elle elle s'est suicidée dans les années 40, si je ne m'abuse. Et elle a été occultée, je dirais, par Simone de Beauvoir en grande part, alors que pourtant, Simone de Beauvoir lui doit beaucoup.
Alors, vous écrivez, Séverine Auffray, autant que les pratiques misogynes, les idées féministes restent mystérieuses, constatées, contestées, affirmées, dénoncées, combattues, mais pas vraiment pensées.
Pensées, oui. Et c'est là que j'ai essayé, moi, de penser. Je ne sais pas si je suis arrivée, mais disons que déjà, j'ai essayé de mettre, d'effectuer une mise en ordre historique de ces idées, non pas en suivant un plan totalement chronologique, mais évidemment, méthodologiquement, j'étais bien obligé de distinguer des abords, un abord archéologique pendant toute la période qui va jusqu'à la fin du Moyen-Âge, parce que justement il faut faire de l'archéologie vu que les documents qui nous sont donnés sont très souvent réduits à l'état de palimpseste, sont brouillés, sont souvent censurés. On parlait tout à l'heure de Sappho, c'est vrai qu'il ne nous reste qu'une partie minime de son œuvre qui était immense. Et qu'on continue à en retrouver d'ailleurs des morceaux de ci, de là, dans des jarres, en Égypte ou ailleurs. Donc
on reconstitue peu à peu son œuvre et ses pièces, sa poésie.
Voilà. Et ensuite, c'est vrai qu'à partir de l'invention de l'imprimerie, alors nous avons des œuvres qui demeurent plus ou moins, on ne sait pas combien sont restées, combien ont disparu, mais il y avait quand même cette pratique du privilège d'imprimer qui faisait que les œuvres étaient déposées et que c'est ainsi qu'on en a retrouvé. C'est ainsi, par exemple, qu'on verra justement l'œuvre de Gabriel Suchon qui a été sauvée par miracle, on peut dire, puisqu'il y en a en France, je crois, 4 exemplaires en tout.
Et qui vous doit beaucoup parce que c'est vous qui l'avez fait connaître en France, qui l'avez édité, qui l'avez étudié. C'est pas terminé. Est-ce que dire, Séverine Auffray, que ce féminisme, ces idées féministes qui peu à peu ont progressé, se sont imposés en quelque sorte, en tout cas dans une pensée globale, c'est une affaire essentiellement occidentale.
Oui, enfin, originairement occidentale, bien que on en trouve partout. Mais la différence, c'est que en Occident, depuis les Grecs, ces questions ont été problématisées et soumises justement à une argumentation, sont passées par la rationalité. Et cela, bien qu'on trouve des idées féministes latentes et implicites dans toutes les civilisations du monde, on n'a pas forcément de problématisation de ces idées.
Ouais, alors donc il y a, vous commencez avec Euripide, vous attardez sur l'Antiquité grecque et latine, surtout grecque d'ailleurs en l'occurrence, en opposant Platon et Aristote.
Ah oui.
Pour quelle raison?
Mais parce que Aristote, alors, c'est vraiment il est franchement machiste, franchement viriliste, on peut le dire. Alors que Platon est plus ambigu. C'est pour ça que je parle de Platon l'oblique et du carré d'Aristote. Oui. C'est vrai que Platon a de grandes figures féminines. Il a ce qu'il appelle la maïeutique, qui est donc l'art de l'accouchement et donc de la sage-femme. Il a Diotime, ce personnage quand même, c'est Diotime qui a fait découvrir la vérité à Socrate. Donc le maître de Socrate est une femme, même si c'est une femme fictive, bien sûr, il l'invente. Mmh. Mais donc il y a chez Platon parfois même des affirmations carrément féministes. Mais quand on va lire sa République, qui est donc son utopie, on s'aperçoit que, effectivement, les femmes sont mises sur un même plan que les hommes, mais le but est quand même d'utiliser leur ventre fécond pour reproduire la République et de faire des tirages au sort fictifs, d'ailleurs. On leur fait croire que on tire au sort également qui va être l'épouse de qui, mais en réalité, tout se passe derrière les rideaux. Et on a choisi d'avance quelle sera la bonne reproductrice pour construire la belle race humaine à venir.
Alors, nous sommes obligés d'aller au grand galop dans votre livre parce qu'il est très riche. Vous revenez, comme l'a fait récemment dans cette émission Olivia Gazalet, sur la place des femmes dans la religion, dans les religions du livre, évidemment. Et j'ai noté une petite phrase qui m'a intrigué. Vous parlez du caractère féminin du christianisme naissant.
Oui. Oui, c'est vrai que le christianisme naissant, on voit toujours le Christ entouré de femmes. Et nombre d'histoires qui sont rapportées au Christ, chez Matthieu entre autres, mettent en scène des femmes, Marie-Madeleine par exemple, qui est pourtant une prostituée, ouais. mais que justement le Christ va pardonner et emmener. Et il est vrai que le christianisme s'est développé dans un milieu essentiellement féminin, et dans un milieu aussi d'esclaves. Et au tout début, c'est vrai que le féminisme primitif est assez féminin.
Et c'est le christianisme clérical qui a compliqué les choses.
Alors, tout à fait.
L'Église, qu'institution.
L'Église. Ouais. Très vite, à partir de Saint Paul, on peut dire, ouais. et bien sûr, par la suite, lorsque s'établira un clergé, alors il y aura un retournement total. Je peux dire qu'on utilise les oppositions de Bergson entre la religion ouverte du point de départ et la religion close, qui va se refermer sur elle-même. Et alors là, les femmes vont entrer au contraire dans une sorte de malédiction, elles vont être satanisées, y compris dans le christianisme.
Alors, avant de retrouver votre cher Gabriel Suchon, Séverine Offray, il faut dire un mot seulement, c'est trop court, mais il faut quand même en parler, de l'amour courtois du Moyen-Âge.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le Moyen-Âge, j'ai employé une métaphore qui est celle de la guitare pour désigner les différences de traitement des femmes au Moyen-Âge. On peut dire que cette guitare, admettons qu'elle ait 6 cordes, la corde basse, c'est vraiment celle du christianisme clérical, absolument hostile aux femmes et qui les satanise. Et puis des cordes hautes, et dans ces cordes de plus en plus hautes, on trouve justement l'amour des troubadours, l'amour courtois, l'amour chevaleresque, dans lequel la dame est magnifiée. Mais c'est vrai que c'est la dame, c'est pas la femme du peuple, hein, c'est la femme des chevaliers, c'est la femme des princes qui est aimée par justement des hommes qui parfois lui sont inférieurs. C'était le cas des troubadours qui n'étaient pas aussi classés, disons, que ne l'était la dame. Mais c'est vrai qu'on trouve à la fois dans ce Moyen-Âge un abaissement des femmes et en même temps un élèvement des femmes. Les deux coexistent. Les deux coexistent et c'est vrai que les historiens de cette période, qu'il s'agisse de Duby ou de Régine Pernoud, soutiennent l'un et l'autre, mais les deux existent, les deux coexistent.
Et puis les femmes sont présentes dans les légendes, la fée Morgane,
oui,
il y a Viviane, il y a Mélusine aussi.
Oui, Aucassin, Nicolette, etc. Enfin, donc
les femmes sont là, sont des femmes fantasmées.
Oui. Oui, fantasmé souvent, mais parfois réel. Aliénor d'Aquitaine, etc. Oui. Enfin, il y a un certain nombre de femmes qui ont eu un rôle réel et que l'on connaît.
Alors, venons-en à Gabrielle Suchon. Vous allez nous en parler parce que, pour vous, il y a deux grands textes qui ont marqué cette histoire des idées féministes. Il y a les textes de Gabrielle Suchon et, bien plus tard, le texte de Simone de Beauvoir dont on va parler, évidemment, le deuxième sexe. Gabrielle Suchon, vous y consacrez plusieurs pages, nous emmène donc au XVIIe siècle et nous, juste à la limite du XVIIIe. Là, on peut parler d'un tournant avec elle ?
Oui, certainement. Donc, elle est née en 1632, la même année d'ailleurs que Spinoza et John Locke, et est décédée en 1703, c'est-à-dire au tout début du XVIIIe siècle. Et c'est vrai que c'est un auteur qui est totalement méconnu, et que j'ai découvert vraiment par hasard.
Ah, que vous avez ressorti des limbes.
Ah oui, oui, ben, ressorti des limbes, mais pour l'avoir trouvé. Il m'a être dit, mais c'est pas possible, quelqu'un qui a écrit une telle œuvre. Alors vous dites, en effet, c'est un énorme ouvrage. Enfin, il y en a deux, d'ailleurs, elle a écrit dans un traité oui. de la morale et de la politique qui fait 1000 pages. Et il y a un deuxième ouvrage, dont j'ai publié quelque chose, qui s'appelle Du célibat volontaire. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Elle va développer un état de célibat pour les femmes, comme quelque chose de légitime. Alors, qui est Gabrielle Suchon ? C'est donc une femme qui est née dans un milieu, disons, petite aristocratie de robe pour son père, de aristocratie habituelle pour sa mère, et qui va être placée comme dans un couvent, de force, religieuse dans un couvent, jusqu'à ce qu'elle découvre que c'était pas cela qu'elle voulait, et qu'elle réussisse à s'évader. On ne sait pas comment. J'ai fait des recherches, on n'a pas trouvé. On sait seulement qu'elle s'est évadée de son couvent et qu'elle a fait le voyage de Rome, comme dit son biographe. Là encore, on ne sait pas par quel moyen, et qu'elle est allée jusque chez le pape, jusque à Rome, pour demander un récrit contre ses vœux, que le pape lui a accordé d'ailleurs. Elle est rentrée. Et là, sa famille a essayé de la remettre de force dans son couvent, mais elle y a échappé, on ne sait pas comment. Il y avait un ami juriste dans sa famille qui habitait Dijon, alors peut-être est-ce lui qui a réussi à intervenir pour la sauver de là. Et donc, elle est allée vivre à Dijon avec sa mère, et c'est là qu'elle a travaillé toute sa vie. C'est extraordinaire, elle a tout lu, elle a lu vraiment toute la philosophie antique, tous les pères de l'Église, toutes les écritures, tous les modernes aussi, tout ce qu'un honnête homme de son époque pouvait avoir lu.
Oui. Alors elle a écrit donc le traité de la morale et de la politique, un autre ouvrage dont vous avez donné le titre, Du célibat volontaire ou la vie sans engagement.
Exactement.
Et un troisième ouvrage, un autre ouvrage dont je vous propose d'écouter un extrait.
Petit traité de la faiblesse, de la légèreté et de l'inconstance qu'on attribue aux femmes mal à propos. Parmi toutes les mauvaises qualités qu'on attribue ordinairement aux personnes du sexe, la faiblesse, la légèreté et l'inconstance sont toujours leurs premiers titres. Les hommes se sont formés une si grande habitude de maltraiter les femmes en parole qu'ils le font insensiblement, n'imaginant même pas qu'elles puissent s'en offenser. Comme c'est par la force, par la fermeté et par la persévérance qu'on se distingue des autres et qu'on s'élève au-dessus des gens du commun, il ne faut pas s'étonner que les hommes tâchent autant qu'ils peuvent de s'attribuer ces grandes qualités. On peut être surpris qu'ils prétendent s'en rendre les seuls possesseurs au préjudice des femmes. Et comme elles sont une partie égale et essentielle de la nature humaine, on ne sait d'où vient qu'elles ne se mettent point sur la défense, depuis tant d'années qu'on s'est fait comme une loi de les traiter avec le dernier mépris. À croire que c'est pour suivre le conseil du philosophe moral qui veut qu'elles se servent de la plus forte de toutes les armes, une modération judicieuse et prudente qui leur fait mépriser la fortune, la douleur, l'injure et les fâcheries. Car bien qu'elles ressentent vivement toutes ces choses, elles ne manquent pas de les supporter avec beaucoup de constance, sachant très bien qu'elles ne sont pas faibles, légères et changeantes, parce qu'on les nomme ainsi, mais que ce sont seulement des mots inventés par la mauvaise volonté de leurs ennemis. plusieurs prennent plaisir à attribuer aux femmes ce qu'ils éprouvent et ressentent peut-être eux-mêmes, comme si leurs paroles avaient le pouvoir de les rendre innocents, en rendant coupables les personnes du sexe. Ce qu'il arrive ordinairement de tous ces discours, c'est que les uns demeurent avec leurs faiblesses, tandis que les autres persévèrent à être fortes et constantes dans leurs souffrances et leurs persécutions.
Alors c'était donc un extrait du petit traité de la faiblesse et de la légèreté, de l'inconstance qu'on attribue aux femmes mal à propos, un des ouvrages de Gabriel Suchon, qui a une résonance moderne évidente.
Tout à fait. Donc ce n'est pas un ouvrage à proprement parler, c'est un appendice de son gros ouvrage, Traité de la morale et de la politique, qui se trouve placé à la fin, oui. Mais qui est inclus dedans.
Et je signale que vous avez publié chez Arléa, peut lire.
Tout à fait.
Aux éditions Arléa, collection de poche. Quelle singularité, quelle vraie pensée avait cette femme?
Oui, tout à fait. Le mot singularité lui convient vraiment, puisque justement, elle développe, il faut dire que c'est une idée de cette époque qu'on va trouver chez Spinoza et John Locke, ces jumeaux, donc de l'âge, la pensée de l'individu. Oui. Et elle, constamment, elle place la singularité, justement, la singularité individuelle partout. Et c'est donc, on peut dire que c'est vraiment une pensée d'époque, sauf que c'est la première, justement, qui va penser cette singularité chez les femmes.
Alors vous dites, c'est en effet, jusqu'à preuve du contraire, la première femme ayant laissé une œuvre philosophique écrite importante, de type discursif, complète et systématique en France, assurément, et peut-être dans le monde entier. A-t-elle eu un écho à l'époque ?
Très peu. Bon, elle a été lue, mais la preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a eu deux éditions de son traité de la morale et de la politique, un en 93, un en 94, ce qui suppose aussi qu'il y a eu réédition, qu'il y a eu de la lecture, mais très très vite, elle a été oubliée. Mais il faut dire que la pensée de cette époque ne retentit pas véritablement, du moment qu'elle est trop subversive.
Alors, elle est morte au début du XVIIIe siècle, qui lui a été un grand siècle. Dans le domaine des idées en général,
oui,
et des idées féministes en particulier, avec une ambiguïté, soit le respect, soit au contraire la continuation du rejet des femmes. En ce qui concerne le respect, je ne résiste pas à la tentation de lire une phrase que vous citez dans le livre d'Emmanuel Kant à propos de l'orgueil des femmes. Il écrit ceci: « Cet orgueil de la femme qui lui fait écarter par le respect qu'elle inspire toute importunité de la part de l'homme et le droit d'exiger de la considération même si elle ne la mérite pas, s'affirme chez elle au nom même de son sexe. La femme refuse, l'homme demande, quand elle concède, c'est une faveur. »
Oui, c'est là que le mot respect...
Emmanuel Kant.
Oui, prend un sens un peu étrange. Je l'ai rapproché de l'expression « tenir en respect ».
Oui. Hein,
c'est-à-dire, on respecte justement ceux ou celles à laquelle on ne donne pas le droit à la parole, entre autres, et à la pensée.
Oui, parce que les philosophes, les fameux philosophes des Lumières, ont-ils fait avancer cette « cause » entre guillemets féministe, pour parler un langage moderne?
Oui, certains, oui. Je dirais que peut-être le meilleur, c'est Voltaire. Voltaire qui a vraiment su être égal aux femmes, en particulier à Madame du Châtelet. Il dit à un moment, nous sommes des amants très libertaires, ou quelque chose comme ça, enfin une expression proche. Il lui dit que la philosophie, la science, et d'ailleurs Madame du Châtelet était une savante, philosophe, on peut dire, elle a eu des ouvrages publiés. Et Voltaire était tout à fait pour cette liberté-là. Diderot, en un sens, mais avec une certaine ambiguïté, un peu comme Platon, si vous voulez, c'est-à-dire, oh, femme, comme vous êtes mignonne, comme je vous aime, etc.
Mais restez à votre place.
Voilà, exactement.
Et alors, Séverine Auffray, il faut dire un mot aussi des révolutionnaires, parce que la révolution a joué un grand rôle. Il y a eu des femmes révolutionnaires. Michelet, que vous citez, parle aussi des marches des femmes. Les femmes ont joué un grand rôle dans la Révolution française.
Vraiment, bien sûr. Et citons quand même aussi un homme qui leur est contemporain, c'est Condorcet. Hein, Condorcet, oui. Dont l'épouse tenait un salon et était aussi une femme de lettres. Alors, pour les femmes, c'est vrai qu'on connaît quand même maintenant enfin le nom de la grande, très grande Olympe de Gouges,
alors,
qui est d'ailleurs un nom qui est un pseudonyme, puisque c'était une, je dirais pas une prolétaire, elle est fille d'un boucher de Montauban.
De Montauban.
Voilà, mais elle va prendre ce nom un peu prétentieux d'Olympe et rajouter de Gouges. Voilà,
de Gouges. Alors, la singularité de cette femme, d'Olympe de Gouges, guillotinée entre parenthèses en 1793,
oui, tout à fait.
C'est d'avoir écrit en 1791 et adressé à la reine une déclaration des droits de la femme.
Tout à fait. Où elle reprend d'ailleurs les articles de la déclaration des droits de l'homme, mais en les féminisant.
Par exemple, elle écrit un article 1 qui est celui-ci. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ça
absolument
rappelle effectivement l'autre déclaration.
Tout à fait. Et on a effectivement d'elle cette phrase terrible, la femme a le droit de monter à l'échafaud, donc elle doit avoir aussi le droit de monter à la tribune.
Ouais.
C'est-à-dire de faire de la politique ostensiblement et collectivement, historiquement.
Alors là, on glisse du domaine des idées à l'idée à la politique, en fait, au combat politique.
Oui, oui, tout à fait.
Est-ce le début vraiment de ce combat féministe, toujours pour employer un mot, une expression contemporaine?
Oui, bien sûr. Michelet, d'ailleurs, dit que la Révolution française a été, c'est assez occulté, mais qu'elle a été, entre autres, le fait des femmes, puisque vous avez, par exemple, ces cahiers de doléances. C'est, imaginez-vous, 4000 femmes s'en vont, à pied évidemment, de Paris à Versailles pour aller présenter leurs doléances au roi. Et donc, elles sont dans la rue. Les femmes sont dans la rue, parlent entre elles. On peut dire que là, il y a une action collective qui est vraiment ce qu'on peut appeler le début du féminisme historique.
Féminisme historique qui s'est exprimé, manifesté au XIXe siècle, d'évidence,
oui,
qui est le grand siècle.
Tout à fait, oui. C'est vraiment le grand siècle du féminisme.
C'est-à-dire que c'est le début, vraiment le vrai début des luttes politiques.
Tout à fait, oui, des luttes politiques des femmes, entre elles. C'est-à-dire, elles ne sont plus seules avec leurs livres, ou même dans leur salon des Lumières, mais elles sont dans la rue. Dans la rue, c'est très important que les femmes soient dans la rue et mènent des actions, justement, de revendications, fassent des manifestations, des manifestes, des presses aussi, on en aura bientôt.
Oui, alors on va parler de Séverine dans un instant, parce que vous faites un
la
beau portrait d'une femme qui s'appelle Séverine, qui était journaliste à l'époque. Donc, 19e siècle, vous écrivez, on y trouve des utopistes autour de 1830-1848,
oui,
des initiés francs-maçons autour de 1848 et de la Commune, des suffragistes à la fin du 19e siècle et au début du 20e en France, en Europe et aux Amériques. Parce que là, il ne s'agit pas
tout
simplement d'un phénomène français.
Bien sûr. Et on peut dire que le féminisme a touché l'Angleterre très très vite,
ouais,
et peut-être d'une manière plus active encore, du fait de l'industrialisation, du fait que beaucoup de femmes qui vivent à la campagne sont obligées d'aller vivre à la ville, elles se retrouvent célibataires, il y a énormément de célibataires à ce moment-là, et se retrouvent entre elles dans la lutte collective, dans les usines, où justement le féminisme commence. Et de l'Angleterre, la France, c'est parti aux États-Unis, c'est parti dans plus de nombreuses régions du monde, et même ça ira jusqu'à l'Orient. On verra que on a en Inde un mouvement féministe qui date de la fin du 19e siècle, comme au Japon d'ailleurs, comme en Chine, etc.
Alors, vous dites que la franc-maçonnerie a eu un grand rôle dans le féminisme au 19e siècle et même au 20e siècle.
Oui. En particulier Maria de Rheim, qui est vraiment une grande penseuse qui a initié d'ailleurs Louise Michel, qui était la première à faire ouvrir les loges aux femmes, alors qu'elles l'étaient au XVIIIe siècle, mais elles ont été fermées ensuite pour des raisons qu'on ne peut pas comprendre, et elles le sont restées d'ailleurs jusqu'au XXe siècle. Il y a encore des loges qui refusent les femmes, mais Maria de Rheim a été la première qui a fait ouvrir ces loges et qui a fait créer des loges mixtes.
Alors nous continuons notre parcours au galop dans votre livre qui est si dense et si passionnant à travers les âges, Séverine Auffray. Les deux guerres ont eu d'évidence aussi un impact sur la construction du féminisme après la Première Guerre mondiale et après la Seconde, et on en vient donc à cette Seconde Guerre mondiale et à la publication en 1949, il me semble, de ce livre qui est devenu un livre de référence absolue, Le Deuxième Sexe, mais qui a marqué en fait le début du féminisme contemporain en France.
Oui, je ne pense pas qu'il a marqué le début. D'une certaine manière,
pour moi, il est souvent cité en référence.
Mais il me semble plutôt qu'il clôture justement la période précédente. C'est comme s'il mettait un point virgule, ouais, à ce féminisme dont nous avons parlé, ce féminisme justement de la Grande Séverine ou d'autres. Et après, on entrera dans une autre période.
Vous avez raison de citer à nouveau la Grande Séverine. J'ai failli l'oublier. Absolument à en parler. Il faut en dire deux mots de cette femme du 19e siècle.
Cette femme de la fin du 19e siècle, elle est née en plein milieu, en 1855, pardon. Mais elle est devenue amie avec Jules Vallès. Elle est née dans une famille petite,
l'écrivain
bourgeoise, très étriquée. Elle était mal à l'aise d'ailleurs. Et puis elle a connu Jules Vallès, qui lui est un grand, très grand socialiste de l'époque, un franc-maçon d'ailleurs. Mmh. Et elle l'a accompagné pendant toute sa vie au Cri du Peuple d'abord. Ouais, c'est là qu'elle a fait ses débuts de journaliste et qu'elle a écrit son premier article sous le pseudonyme de Séverin. Je sais pas d'où elle a été le chercher d'ailleurs. Et le deuxième sous le nom de Séverine. Et bon, j'ai le plaisir de porter le même nom.
C'est pour ça que vous êtes intéressé à Séverine.
Non,
Séverine.
Disons que mes parents m'avaient dit pourquoi ils m'avaient appelé Séverine et ils m'avaient parlé d'elle. C'est comme j'en ai entendu parler depuis ma prime jeunesse, on peut dire. Et donc, cette Séverine a ensuite, après la mort de Vallès, collaboré à un journal extraordinaire qui s'appelle La Fronde, créé par Marguerite Durand, et qui était un journal entièrement fait, composé, écrit par des femmes. Et il n'y avait que des femmes dans l'établissement, sauf le gardien, le portier. Mais tout le reste, la composition, l'impression, etc., était faite par des femmes.
Ouais. Alors, je vous propose d'écouter Simone de Beauvoir, qui, selon vous, a clos donc cette façon de concevoir le féminisme, Séverine étant une représentante de cette époque. Simone de Beauvoir, donc, qui sort ce livre, Le Deuxième Sexe, 1000 pages en 2 tomes en 1949, vous propose de l'écouter des années plus tard, au début des années 70, Simone de Beauvoir.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. On inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin.
Les différences biologiques qui sont évidentes, vous considérez qu'elles ne jouent pas de rôle dans le comportement ultérieur éventuel de l'individu?
Je pense qu'elles peuvent en jouer un, si, elles en jouent un, certainement. Mais l'importance que prennent ces différences vient du contexte social dans lequel elles se situent. Je veux dire que, bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition.
La réaction, c'est ce que vient de dire Simone de Beauvoir, Séverine Auffray,
oui,
avec sa phrase celle-là, on n'est pas femme, on le devient.
Oui, donc ça c'est un texte qui doit dater des années post-68, je pense. Là, Simone de Beauvoir est devenue féministe, mais moi je dis que son livre, Le Deuxième Sexe, ne l'était pas. Et justement, ce qui est intéressant là, c'est qu'elle a une perspective qu'on peut appeler existentialiste, puisqu'elle parle du bébé qui naît et auquel on va donner justement des caractères, on va l'inscrire dans le féminin de force. Alors que dans Le Deuxième Sexe, elle parle de la femme, l'essence de la femme qui se trouve du côté de l'immanence, enfin avec des catégories métaphysiques qui sont donc l'homme, c'est le côté de la transcendance, la femme, c'est l'immanence, l'homme c'est le haut, la femme c'est le bas, l'homme c'est l'actif, la femme c'est le passif, etc. Quand on parle de la femme, moi je dis toujours laquelle. voilà, pareil quand on parle de l'homme d'ailleurs. Oui. Or là, on voit qu'elle parle des femmes et non plus de la femme.
C'est cette Simone de Beauvoir là qui est devenue,
disons qu'elle s'est ralliée.
L'icône.
Oui, elle s'est ralliée au féminisme qui commençait avec le début du MLF et ces femmes du MLF sont allées la chercher et elle, à ce moment-là, elle a bien vu que il y avait je veux dire, je vois mal comment une sartrienne ne pouvait pas être sensible à ce mouvement de rue qui saisissait les femmes et donc elle, je dirais qu'elle a changé, ses idées ont changé à partir de ce moment-là.
Alors il y a effectivement 68, on va beaucoup en parler ces prochaines semaines et ces prochains mois, et il y a aussi le début des années 70 et la création du MLF. Je vous propose de, en son, avec grâce à une ambiance sonore concoctée par Vanessa Rovansky, de revivre ce début des années 70.
Mouvement de libération des femmes. Je crois que c'est le mouvement le plus révolutionnaire, c'est une révolution ininterrompue. Au fond, j'ai été féministe au terme d'une belle journée de printemps, parce qu'une enseignante avait eu le bon goût de me donner le livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, j'avais 14 ans. Et à la fin du week-end, d'avoir lu ce livre, j'étais transformée, j'avais tout compris.
Nous en avons assez, vers la honte de la terre.
Avec nous, les femmes, avec nous, les femmes, avec nous.
Dans un beau pays comme la France, c'est dégueulasse de laisser faire ça.
C'est une honte.
Ce qui est encore mieux, c'est tous les gens qui les regardent qui disent rien. C'est ça qui est la honte.
Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Devant nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Dans les années 60-70, il y a eu une vraie grande agitation utile sur des causes qui étaient essentielles, qui ont été un tournant même dans le monde, c'est-à-dire le contrôle des naissances. Et par conséquence, et d'une fois tristement, mais la possibilité d'avorter. C'est un énorme changement dans le monde. Alors, comment il se décline, comment il se pratique dans le monde? Vous savez que c'est inégalement une solution applicable et appliquée. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est très important qu'à partir d'un certain moment, les femmes puissent décider. Alors moi, je me rappelle avoir fait à l'époque une chanson militante qui disait « Ce n'est plus papa, ni le pape, ni le roi, ni le législateur qui me diront si je dois enfanter ou pas. » Parce que c'est vrai que c'était les hommes qui décidaient pour les femmes.
Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur qui me feront la loi. Biologie n'est pas destin et la loi de papa ne vaut plus rien. Mon corps est à moi, mon corps est à moi.
Personne n'a jamais contesté, et le ministre de la Santé moins que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui ont recours. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la conformation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays.
Séverine Offray, nous avons voyagé dans le temps, dans les années 70, avec des extraits d'un film qui s'intitule « Femme debout », qui a été réalisé en 1999 et signé par Carole Roussopoulos. On a pu entendre notamment Agnès Varda dans ce film. Oui. Et on termine avec Simone Veil en 1974, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est une époque cruciale que cette époque.
Vraiment cruciale. J'ai beaucoup de reconnaissance pour Simone Veil, justement d'avoir reçu, alors que ce n'était pas une femme de gauche du tout, et ce n'était pas une féministe non plus, mais d'avoir en tout cas soutenu cette inscription du droit des femmes à disposer de leur corps et donc à pouvoir avorter. Mais disons que Simone Veil a été obligée aussi d'entériner ce mouvement de rue qui était violent, comme vous en voit justement les critiques qu'en fait la foule autour, ce mouvement nouveau. Alors on peut dire que c'est la quatrième période du féminisme, c'est cette période où est revendiqué enfin le droit à la sexualité libre et le droit à avoir son corps. Mon corps est à moi, justement. Jusque-là, on a vu que les revendications étaient économiques, politiques, mais elles n'avaient pas encore cet aspect-là, c'est-à-dire celui qui va parler du corps et du sexe des femmes.
Alors, il faut préciser que c'est un mouvement international aussi. Ça, tout ça s'est manifesté aussi, notamment aux États-Unis, bien entendu. Vous dites que cette période, ce début des années 70, marque vraiment une rupture dans le féminisme.
Ah oui, là, il y a vraiment une rupture totale, puisque jusque-là, ce corps, ce sexe, c'est peut-être là que Simone de Beauvoir fait quand même une transition, parce qu'elle est la première à parler du corps et du sexe. Hein. Mais justement, ce corps et ce sexe ne sont pas encore revendiqués alors qu'ils vont l'être à partir des années 68-70.
Quelle est, à votre avis, la situation aujourd'hui en matière de féminisme? Parce que certains disent qu'il y a un recul, d'autres disent au contraire que ce féminisme continue d'évoluer sous différentes formes. Quelle est votre façon de voir les choses?
Oui, j'ai été frappée par les manifestations extraordinaires qui ont eu lieu en Espagne. 6 millions de femmes ont fait une grève générale.
À l'occasion de la journée des droits de la femme du 8 mars de cette année, il y a quelques semaines.
Tout à fait. Alors, rien que cet événement nous montre que le féminisme n'est pas en recul. Oui. Même si en France, ça a été plus modeste cette année. Bon, il y a bien sûr des divisions à l'intérieur du féminisme, entre des universalistes, des différentialistes, etc. Mais je crois que le mouvement est plus que jamais vivant, et puis que les tout derniers événements nous montrent encore un nouvel aspect dont on n'avait pas parlé, à savoir celui du droit des hommes sur le corps des femmes par le harcèlement ou le viol. Ça, même la période 68-70 n'en avait pas parlé ou l'avait laissé dans l'équivoque.
Cette campagne « Balance ton porc » et tout ce qu'on a connu après l'affaire Weinstein vous semble être un nouveau tournant en fait,
oui,
dans cette élaboration du féminisme?
Certainement, c'est un nouveau tournant. Les femmes, là, vraiment, collectivement, prennent conscience que elles ne veulent plus supporter cette emprise du sexe en tant que tel, voilà, qui leur est imposée de manière violente, causant des souffrances épouvantables.
Alors ça, c'est la situation en France et en Europe, en Occident aussi, bon, aux États-Unis bien sûr, mais il y a des pays, des continents où cette cause des femmes a du mal à se faire entendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a un pays notamment où ce combat est difficile, c'est l'Inde, bien entendu.
Oui.
On parle même de massacre de jeunes filles.
Oui. Hein,
effectivement, donc le combat est rude. Je vous propose d'écouter une femme qui s'appelle Urvashi Boutalia, qui avait répondu il y a quelques années sur notre antenne à Sylvie Coffey. C'est une éditrice et elle a fondé la première maison d'édition féministe en Inde. Elle est aussi historienne. Je vous propose de l'écouter.
Être féministe en Inde, ça dit différentes sortes de choses. Pour moi, j'ai jamais eu le problème de dire que je suis féministe. Je suis fière du fait d'être féministe. Mais il y a beaucoup de femmes en Inde qui n'aiment pas le mot, et parce que il semble, c'est pas vrai, mais il semble que c'est un mot, c'est un concept qui apporte une histoire de l'Ouest. Et c'est aussi un concept qui semble très militant. Donc, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas dire qu'elles sont féministes, mais le travail qu'elles font, c'est tellement féministe. Mais quand même, quand on dit en Inde que je suis féministe, on invite aussi toujours, souvent, pas toujours, une sorte de critique qui disent que, oh, regarde, elle n'est pas indienne parce qu'elle parle des choses occidentales et donc le féminisme n'est pas quelque chose qui est né en Inde et des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout vrai. Parce que moi, je crois que chaque sorte de féminisme a des racines très particulières dans la société d'où il vient.
Alors, j'ai très envie de vous entendre sur ces propos de d'Urvashi Boutalia, donc éditrice, historienne, fondatrice de la première maison d'édition féministe en Inde. On lui reproche, on lui dit, le féminisme, c'est un concept de l'Ouest.
Oui, certainement. Mais il n'empêche qu'il y a eu une pensée féministe qui s'est développée à la fin du 19e siècle en Inde, avec entre autres une penseuse étonnante, Tabara Eshind, qui écrit... une sorte de manifeste féministe dans les années 1880. Hein, donc il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est vrai qu'il y a fort à faire en Inde, puisque Tabara Eshind le fait remarquer. On a des déesses qui sont magnifiques, on les voit à tous les coins de rue, mais par contre, la réalité que vivent les femmes est catastrophique, hein, puisque il y a déjà le meurtre des petites filles à la naissance, une baisse du ratio des filles et des garçons. On conserve les garçons, on fait avorter les femmes, et puis toutes sortes de pratiques telles le fait que la femme, quand elle devient veuve, doit être brûlée vive, que lorsqu'elle fait les atteintes à l'acide, vous avez vu, jusqu'à actuellement, les femmes on leur projette de l'acide au visage, qui les rend monstrueuses. On se débarrasse des grands-mères sur les bords du Gange, et puis on les laisse faire. Il y a une prostitution colossale aussi. Et puis même, on peut dire que la femme est enfermée. Enfin, les femmes, je ne dis pas la femme, hein. Les femmes sont enfermées dans les maisons. Donc, il y a beaucoup à faire.
Ah, le combat universel n'est pas gagné, loin
non,
s'en faut,
Séverine
Offray. Il faut aussi signaler la création en Côte d'Ivoire, par exemple, du premier syndicat de femmes. Oui. C'était inenvisageable il y a encore quelques années, en Côte d'Ivoire. Donc, cela veut dire que sur tous les continents, la cause féministe évolue.
Tout à fait.
Et vous en appelez, dans votre livre, Séverine Offray, à créer un féminisme affirmatif et hospitalier.
Oui.
J'aime bien le mot hospitalier.
Oui, mais hospitalier veut dire ouvert à l'autre. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas pour une guerre contre les hommes. Absolument pas. Et j'estime que le féminisme vraiment généreux et qui sera le plus fertile pour les femmes, c'est celui qui fait la place aussi aux hommes. Et puis, en même temps, à toutes les différences, c'est-à-dire aux homosexuels, aux transsexuels, aux transgenres, etc. À toute la diversité humaine qui ne doit pas justement être prise sous cet aspect homme-femme, simple opposition. Il y a tous les degrés, il y a toutes les libertés à respecter. Et donc, c'est cela pour moi qui est un véritable féminisme moderne d'aujourd'hui.
Merci Séverine Offray. Il faut lire votre livre magistral qui s'intitule Une histoire du féminisme de l'Antiquité grecque à nos jours, publié aux éditions de l'Observatoire. Il faut le lire parce que c'est une somme considérable qui nous sert de repère dans ce grand débat sur le féminisme. Merci.
Merci Pierre-Edouard Bendic.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Un grand merci à Véronique Guémard et à Valérie Nivelon. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante.
Idée au pluriel @rfi.fr.
Vous pouvez aussi retrouver ce magazine sur le site de la radio, www.rfi.fr, à la page idées. Je vous retrouve samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche donc pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.